Famille Éduc, on en parle sans tabou.
J'ai le plaisir d'accueillir pour une troisième fois en studio Madame Denise Normand-Guérette, qui est orthopédagogue et professeure associée à l'UQAM. Bonjour Denise.
Bonjour Lydia.
Merci d'accepter mes invitations.
Ça me fait plaisir.
Moi aussi. Alors la dernière fois, Denise, on parlait de l'intelligence émotionnelle et j'ai réalisé en vous écoutant qu'il y a beaucoup, beaucoup d'occasions dans la vie de tous les jours où on peut aider nos enfants à développer leur intelligence émotionnelle, à aller un petit peu plus loin. Est-ce qu'un jeune enfant peut comprendre quand on lui explique ce qu'il vit au plan émotionnel?
Oui, et dans mon expérience et à travers mes recherches, j'ai réalisé à quel point les enfants sont capables de comprendre quand on leur explique par rapport à ce qu'ils vivent au niveau de leurs émotions. Et les enfants ressentent les émotions et à partir de ce qu'ils ressentent, ils n'ont pas nécessairement les mots pour être capable d'en parler. Par contre, lorsque des adultes viennent et ajoutent des mots pour leur faire saisir davantage qu'est-ce qu'ils ressentent, ça enlève du stress, ça enlève de la pression par rapport à ce qu'ils vivent intérieurement. J'aimerais ça vous donner un exemple avec un enfant de 4 ans à qui j'ai voulu expliquer c'est quoi l'interférence émotionnelle. Bien, les gens vont me dire, un concept comme ça, expliquer à un enfant de 4 ans, ça n'a pas de bon sens, c'est impossible. Mais j'ai pu constater, j'ai fait l'essai en me disant, on va voir qu'est-ce qu'il comprend de ce que je lui explique. Alors, j'ai utilisé un petit bonhomme dessiné avec des mots, des flèches autour pour lui expliquer ce que c'était. Et c'est un enfant qui ne parlait pas ma langue, alors j'avais besoin d'une traductrice. Alors, je lui ai dit, regarde, j'ai dit, le petit bonhomme, des fois, il n'est pas bien en dedans de lui. Puis ici, en pointant l'estomac, j'ai dit, ça fait pshh, il n'est pas bien. Puis quand il est pas bien, ben dans sa tête, là, ça vient tout mélanger, puis il y a de la misère à comprendre. Alors, il pense qu'il est pas bon, puis quand il pense qu'il est pas bon, ben il a peur que les autres le rejettent. Alors là, c'est l'enfant lui-même qui a interrompu la traductrice pour lui dire, « Moi, aujourd'hui, j'en ai pas eu de pshh! »
Wow!
Alors, je me suis dit, « Oh, oh, je pense qu'il a compris. » Et là, la traductrice lui a demandé, « Ben pourquoi tu dis ça? » Alors, il a expliqué, aujourd'hui, je l'ai fait l'éducation physique avec mes amis. C'est un enfant de 4 ans, il est à la garderie et sa mère est décédée il y a 6 mois. Donc, les éducatrices respectaient l'enfant qui disait, non, je veux pas aller avec les amis faire l'éducation physique, etc. Alors, il restait sur le banc, il regardait les autres. Mais c'est sûr que c'est un enfant qui aime bouger, c'est un enfant qui... Il était pas bien de rester sur le banc, mais en même temps, il osait pas y aller. Alors, cette journée-là, il était allé et c'est pourquoi il a dit, je n'ai pas eu des pshh comme ça aujourd'hui. Alors, 4 ans, il a compris.
Puis il a compris le lien aussi. Il a compris que là, il se sentait bien parce qu'il avait fait de l'activité avec les enfants parce qu'il s'était lancé.
Oui, exactement. Il avait pris le risque d'aller, même s'il n'était pas sûr d'être aussi bon que les autres, par exemple.
Oui. Donc, Denise, c'est vraiment important d'expliquer à nos enfants ce qu'ils vivent intérieurement puis de les amener à nommer leurs émotions puis à les reconnaître.
Oui. Il faut aller aussi, je dirais, plus loin. Si on fait juste nommer l'émotion et amener l'enfant à dire, bon, quand tu vis une émotion, il faut que tu sois capable de le dire. Je suis fâchée, je suis triste, je suis découragée. C'est une première étape, mais il faut aller un peu plus loin que ça pour arriver à découvrir qu'est-ce qui stimule la réaction émotionnelle et aider l'enfant à comprendre aussi cet aspect-là. Une des façons de faire, c'est nous, en tant qu'adultes, c'est important qu'on soit à l'écoute, qu'on soit attentif à ce que vivent les enfants dans la vie de tous les jours, les observer et à partir de là, être capable de déceler qu'est-ce qui pourrait être la source qui provoque la réaction.
Et donc, c'est vraiment important de prendre le temps ou plutôt de faire l'effort d'observer.
Oui, parce que c'est pas nécessairement plus long. C'est simplement que dans notre façon de faire les choses, on a comme cette pensée de dire, oh, en même temps que je prépare le souper, là, je vais regarder qu'est-ce qu'il fait le petit, puis je vais essayer de saisir à quel moment il commence à pleurer, à quel moment il commence à crier, puis à vouloir que je m'occupe de lui, par exemple. Prenons cet exemple-là du repas. D'une part, on l'observe, mais d'autre part, on peut aussi lui dire, écoute, viens avec moi, on va faire des choses ensemble.
On va l'impliquer.
Ben oui, c'est ça, on va le faire participer. Alors là, l'enfant, un enfant de 3 ans, si on lui donne un couteau qui coupe pas, qu'on lui donne une banane qui est facile à trancher, et qu'on lui dit, ben, tu vas préparer les bananes pour le dessert, et on lui montre comment couper la banane, il va le faire, puis il va sentir que son parent lui dit, au fond, lui proposant tout petit comme ça de faire une tâche que lui voit les adultes faire normalement, ça va lui montrer que les adultes disent « Hey, ils croient que je suis capable de le faire. »
Ce qui est très valorisant. Et les enfants, généralement, ils aiment ça aider. Ils veulent.
Oui.
Des fois, c'est les parents. Non, 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 on les pousse de là un petit peu.
Oui, bien, on est pressé. Puis, ça va plus vite, des fois, ou en tout cas, on pense que ça va aller plus vite de le faire nous-mêmes, puis que l'enfant y aille jouer, là.
Oui, on pense.
On pense. Sauf que quand il se met à se chicaner avec son frère, sa sœur, ou si tout seul, il se met à crier, bien, je veux dire, on est obligé de s'en occuper. Et là, finalement, c'est désagréable. Alors qu'on pourrait juste prendre un petit peu de temps pour lui montrer, puis on va lui montrer une fois. La fois suivante, si on lui dit « Viens couper les bananes avec maman ou avec papa », il va venir, puis il sait comment il va le faire.
Oui.
Donc, on va sauver du temps. Puis on va surtout créer une atmosphère qui est agréable, qui fait que l'enfant sent qu'on a confiance dans ses capacités, puis qu'on a confiance qu'il peut apprendre à faire des choses nouvelles. Et quand on l'amène sur ce terrain-là, ce qu'on a en tête comme adulte, c'est de lui dire « je veux développer la fierté de toi ». C'est-à-dire être fier de ce que tu apprends, de réaliser des choses par toi-même, plutôt que d'attendre que des adultes viennent et te disent « Ah, bravo, c'est beau ce que tu as fait ». Alors, de lui faire voir quand il a fini de la couper la banane, bien, t'es content, ça paraît que t'es fier, c'est toi qui l'a préparé le plat de banane pour le souper.
Donc, toute la nuance est là. Plutôt que de lui dire « bravo, je suis fier de toi », c'est de remettre cette fierté, de lui redonner cette fierté qui lui appartient.
C'est ça, et de la reconnaître, lui dire « je le vois que toi, t'es fier ». Puis c'est vraiment pas nécessaire de rajouter qu'on est fier de lui. Parce que le message qu'on veut lui transmettre, c'est « toi, tu es fier de toi ». Et cette fierté-là est en train de construire une force à l'intérieur de toi qu'on appelle l'identité humaine.
Là, on parle du repas. J'ai un autre exemple, Denise, qui me vient en tête. Par exemple, dans une fratrie, comment on peut aussi aider les enfants par rapport à ce qu'ils vivent au plan émotionnel? Je pense à l'exemple de la plus petite qui veut faire comme le plus grand. Par exemple, le fameux là, pichet d'eau. Ça, c'est un exemple qui est très, très concret pour moi. Le fameux pichet d'eau. Donc, le plus petit ou la plus petite qui veut faire comme le grand, qui veut verser les verres d'eau, puis qui dit c'est injuste parce qu'elle, elle peut pas le faire, puis l'autre peut le faire.
Oui.
C'est injuste, ça revient souvent, souvent dans les fratries.
Oui, exactement. Le mot injuste, l'enfant l'utilise pourquoi? Parce que lui, il voit que l'autre a le droit de servir du pichet d'eau pour verser et il considère que lui aussi devrait avoir le même droit. Mais au fond, qu'est-ce qui le dérange émotionnellement? Alors, c'est toujours ça qu'on cherche comme adulte, à aller voir au fond, si je m'en tiens à cet injuste, je vais être obligée de travailler sur c'est à l'extérieur de l'enfant qui est le problème. Alors que faut que je ramène ça à l'enfant puis lui faire voir que lui, il y a quelque chose qu'il peut faire pour arriver à ce qu'il puisse lui aussi verser de l'eau, même s'il est plus jeune. Alors, je peux... d'une part, c'est important de lui rappeler, tu sais, ton frère ou ta sœur, là, quand il avait ton âge, là, il ne savait pas verser de l'eau dans des verres, il en renversait à côté. Et ils ont appris à le faire. Est-ce que tu sais comment ils ont appris à le faire? Et là, voir quelle réponse l'enfant va donner. Mm-hmm. Après ça, lui dire, écoute, moi, pour apprendre, il faut pratiquer. Pratiquer, ça veut dire le faire plusieurs fois. Puis c'est sûr qu'au début, quand tu vas le faire, ça va te passer à côté du verre, puis il va en tomber à côté. Alors, on va faire un jeu. Je vais te donner des verres, des petits, des moyens, des gros. Je vais te donner un pichet d'eau, puis tu vas aller dans le bain. Puis dans le bain, tu vas verser. Même si ça tombe à côté, ça ne fera pas de dégâts. C'est pas grave. Tu vas t'amuser, puis tu vas te pratiquer. Puis quand tu vas devenir capable de le faire sans que ça tombe à côté du verre, bien, tu vas être fier de toi, là. Tu pourras venir aussi le faire à la table. Et c'est pas important que ce soit moi qui te dise « bravo, t'as réussi ». Toi-même, tu vas t'en apercevoir quand tu vas réussir, puis tu vas être fier, puis tu vas venir me dire « maman, j'ai réussi ».
Oui, puis on va le voir dans ses yeux aussi.
Bien, c'est certain.
Puis on va l'entendre dans sa voix.
Oui.
Puis à l'inverse aussi, je reviens encore sur le fameux injuste, là. Oui. J'aime ce que j'entends, Denise. Quand c'est l'aîné, qui trouvent que c'est injuste. Par exemple, aider le plus jeune à mettre le pantalon d'habit de neige par-dessus les bottes. Mais le plus grand, là, ça fait déjà plusieurs années qu'il fait ça. Puis qu'il nous dit, c'est pas juste, tu m'aides pas, moi, à me préparer le matin.
Oui.
Qu'est-ce qu'il veut nous dire dans son « c'est injuste »
Alors, ce qu'il veut nous dire, c'est « t'es en train d'aider mon petit frère ou ma petite sœur, mais moi, je voudrais avoir autant d'attention au même moment. » Alors, si, et ça, c'est important d'apprendre aux enfants à nous dire leurs vrais sentiments, leurs vraies émotions. De ne pas dire « c'est injuste », lui dire « au fond, là, qu'est-ce que tu veux me dire? Tu voudrais me dire, maman, tu t'occupes du petit frère ou de la petite sœur, mais je voudrais que tu t'occupes de moi. » Je veux te rappeler que quand tu étais tout petit puis que tu avais son âge, j'ai fait exactement la même chose avec toi pour te montrer à mettre ton pantalon dans ta botte. Mais si aujourd'hui je faisais la même chose avec toi, je t'aiderais pas à grandir. Moi, je veux t'aider à grandir. Alors, quand tu as besoin d'aide pour quelque chose où c'est vrai que tu es en train de l'apprendre, apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre à compter, je vais t'aider puis ça va me faire plaisir parce que ce que je veux, c'est t'aider toi à grandir. Où t'es rendu? Je veux pas t'aider, je peux pas t'aider quand tu le sais déjà. Mais c'est ça qui est important, c'est que tu développes tes capacités de devenir plus capable, mais dans les choses où toi t'es rendu à ces apprentissages-là.
Oui, donc en fait, ça revient là à ce que vous nous disiez au début, hein. C'est de vraiment, c'est de mettre des mots sur les émotions, ce que plusieurs familles font déjà, mais un petit peu plus loin, c'est de trouver ce qui provoque les réactions émotionnelles.
Puis de ne pas avoir peur d'expliquer aux enfants et de faire des hypothèses avec eux, dire « est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? » Puis souvent, là, ils vont nous dire « non, non, non ». Mais juste dans le « non, non, non », on se dit « ah, tiens, tiens, je pense que j'ai mis le doigt sur la bonne chose. » Et évidemment, un adulte comme un enfant, on n'aime pas ça être dévoilé dans ce qu'on ressent au plus profond de soi. Alors, il faut accepter que ça prenne un petit peu de temps, puis au fur et à mesure, ça va faire en sorte qu'on va amener l'enfant à mettre les mots juste au bon moment.
Et on reste encore dans la fratrie. Un autre exemple qui m'a été rapporté, par exemple, un petit garçon qui a 5 ans, qui sait déjà lire, puis il aime lire à voix haute devant les membres de sa famille, puis évidemment, il récolte des félicitations. Et il y a le plus vieux qui, lui, il veut pas le faire, pourtant il sait lire parce qu'il est plus grand, mais à 5 ans, lui, il savait pas lire. Alors, pourquoi est-ce qu'il refuse de lire à voix haute? Qu'est-ce que les parents pourraient faire? Quel échange ils pourraient avoir avec l'enfant le plus vieux là, pour savoir ce qu'il vit émotionnellement?
D'une part, il faut se dire qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent être possibles, puis il faut essayer de voir, à travers l'observation qu'on fait de l'enfant, quelles pourraient être les raisons, mais on peut poser aussi des questions à l'enfant. Pourquoi tu ne veux pas lire devant nous à voix haute et voir quelle réponse il va nous donner puis échanger avec lui là-dessus. Je vais faire des hypothèses. L'enfant, ça se peut qu'il est bien conscient qu'on admire son petit frère ou sa petite sœur qui est en train de lire et qui est jeune. Alors, c'est un peu exceptionnel. Il se dit, ben là, c'est sûr que moi, si je lis à voix haute, je n'aurai pas la même admiration. Alors, si c'est ça, c'est important qu'il en prenne conscience et qu'il voit que ce n'est pas essentiel d'être admiré, mais que l'important pour lui, il veut développer des meilleures capacités de lire à voix haute en mettant de l'intonation dans sa voix pour que s'il y a à lire dans une pièce de théâtre ou s'il y a à faire une tâche quelconque à l'école, qu'il ait développé cette capacité-là. Pour ça, il faut qu'il le pratique. On revient encore à l'idée, l'enfant, c'est pas instantané, ses capacités se développent avec le temps, avec la pratique. Il faut l'amener à en prendre conscience. Une autre possibilité, est-ce que l'enfant, il se rappellerait que lui, quand il était petit, à 5 ans, il savait pas lire à voix haute, c'est-à-dire qu'il savait pas lire point, il a appris à lire un peu plus tard, et que de voir son frère ou sa sœur savoir lire, il se dévalorise lui-même en se disant « moi, j'étais pas aussi bon que lui quand j'étais petit », et que c'est ça que ça lui rappelle comme souvenir. Donc, à ce moment-là, encore là, d'échanger avec lui là-dessus pour l'amener à en prendre conscience.
Oui, c'est important d'en parler puis de mettre les mots sur tout ça.
Oui, puis peut-être aussi qu'il n'en sent pas le besoin, lui, de lire à voix haute. Alors, il n'y a peut-être pas d'obligation non plus à ce qu'il le fasse. Donc, il ne faut pas non plus toujours voir qu'il y a quelque chose en dessous d'un comportement d'un enfant, mais c'est important de se poser la question puis de discuter avec l'enfant pour voir qu'est-ce qui l'amène à choisir de faire telle chose ou telle autre chose.
Denise, on arrive vers la fin de l'entrevue, mais je voudrais qu'on glisse un petit mot là, sur la chronique de la revue Psychologie préventive. Donc, je rappelle à nos auditeurs que Denise est rédactrice en chef de la revue Psychologie préventive, qui a maintenant une chronique sur l'intelligence émotionnelle.
Oui. Alors, on a introduit cette chronique-là dans le dernier numéro, le numéro 47. Et l'objectif, c'est justement de permettre à tous ceux qui vont lire cette chronique-là de développer leur propre intelligence émotionnelle en tant qu'adulte ou aider leurs enfants à la développer. Alors, on met des exemples très concrets dans la chronique pour que les gens s'y reconnaissent et qu'ils voient que dans la vie de tous les jours, on peut faire un cheminement, on peut faire une démarche pour devenir plus conscient de ses émotions, les sentir, mais aussi voir de quelle façon on va les équilibrer pour pas toujours vivre une espèce de tension intérieure qu'on n'avoue pas, évidemment, aux gens à l'extérieur, mais qui nous rend mal à l'intérieur et qui fait qu'on est moins bien dans nos relations avec les autres, dans notre relation avec soi-même. Alors, l'objectif, c'est vraiment que la chronique donne des outils concrets à ceux qui s'intéressent à cette question de l'intelligence émotionnelle.
OK. Pour trouver sur Internet là, le lien vers la revue, donc, on écrit dans Google « Psychologie préventive » et tout de suite, ça arrive sur le site la revue?
C'est-à-dire qu'on voit, on la voit apparaître dans les premiers énoncés, là, et on clique sur « Revue psychologie préventive », comme ça on arrive sur le site de notre revue.
Bon, bien, je vous invite, chers auditeurs, à aller voir sur Internet « Psychologie préventive » et de lire sur l'intelligence émotionnelle. C'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup, Denise.
Merci, Lydia.
Pour tous les organismes et les gens engagés dans la communauté et passionnés par la famille, visitez-nous sur le famille.quebec.com.
Partagez, écoutez, faites écouter. C'est aussi aider et sensibiliser. Produit et diffusé sur les ondes de CKVL 100,1 FM, aussi en diffusion sur le web au 100-1fm.com. Nous sommes aussi disponibles sur l'application TuneIn Radio à CKVL-FM.